Chapitre 44. Les Cavaliers Rouges. Zizo boitait. Dès qu'il était sorti du laboratoire de Galien, il s'était engouffré dans le premier escalier en direction du sous-sol du palais. Il tenait sa lampe laser dans une main et l'arbalète cobra dans l'autre. D'après sa mémoire visuelle du plan d'Haussmann, les caves n'étaient qu'une succession de couloirs et de pièces sans fenêtres, servant de salles d'archives, de celliers ou de garde-manger. Idéal pour être transformé en cellules. Sa jambe le faisait souffrir aussitôt qu'il posait le pied. Rien de grave, se forçait-il à penser. La douleur le ralentissait, mais il pouvait marcher. Il avait resserré le foulard d'Isalis autour de sa cuisse, et le garrot empêchait la plaie de saigner. Des gouttes écarlates tachaient pourtant les marches de l'escalier. Des taches de sang, à peine séchées. Zizo réalisa qu'il empruntait le chemin des torturés, le parcours effectué chaque jour par les prisonniers de leur cachot au labo. Pour les retrouver, il suffisait de suivre la piste rouge. Faute de miettes de pain, ses amis résistants avaient joué au petit pousset avec leur sang. Il descendit encore quelques marches, puis suivit les marques dans un dédale de couloirs sombres. Le trousseau de clés accroché à sa ceinture carillonnait. À chaque bifurcation, il braquait sa lampe et son arbalète. Même si la plupart des soldats impériaux étaient partis se battre sur le Mont Chauve, il en restait forcément quelques-uns pour garder le palais. Tout en progressant, Zizo repensait à Galien, à son suicide atroce, à la bave bleue entre ses lèvres, à ses derniers mots surtout. « Ogénor est fou, et il s'apprête à commettre un acte encore plus fou, d'une portée que nul ne peut imaginer. Il ne va laisser personne derrière lui. » Qu'avait-il voulu dire? Qu'Ogénor était prêt à détruire l'humanité? Disposait-il d'une arme absolue? Le dernier moulin sublime? Celui caché quelque part dans le palais? Un moulin pour que ne survive que moi? C'était ridicule. Si Ogénor le déclenchait, lui aussi mourrait. Zizo serra les dents et tenta d'accélérer. Il s'enfonçait dans un interminable couloir noir. Ses pensées sombres scandaient ses pas. Et si Ogénor projetait de survivre grâce au thérapan? Ces fameuses pilules jaunes. Akane possédait celles de Mordelia, les deux dernières. Mais Alix disposait de celles que Jacques lui avait offertes, une boîte entière. Ogénor les avait-il récupérées? Et après? Le thérapan ne permettait pas de guérir après avoir respiré le nuage de Pandorium. Il permettait seulement de retarder la mort. Était-ce cela son projet? Survivre quelques années de plus que les autres, seul au monde? Non, il avait forcément un autre plan. Zizo devait le découvrir et le déjouer même s'il ne disposait d'aucun moyen de détruire l'ultime moulin sublime. Le sublimateur était entre les mains d'Akan. Il l'avait conservé pour détruire celui du temple de la Sibylle, puis les deux autres, ceux des singes et des soldats.
« Non !»
Le cri avait résonné dans la nuit, tirant Zizo de sa rêverie.
« Non !»
répéta la voix, puis plusieurs autres, chaque fois que le rayon laser de Zizo balayait le couloir.
« Non ! Laissez-nous ! Ou achevez-nous ! On ne parlera pas !»
Il avait reconnu la voix de Liu, Wayne et Braza. Il se précipita, traînant comme il le pouvait sa jambe blessée. Sa torche éclaira les murs et dévoila une longue rangée de cellules encastrées dans le tunnel de pierre et fermées par de lourdes grilles de fer. Une quinzaine de prisonniers le fixaient, mains crispées sur les barreaux.
Zizo ?
Zizo peinait à les reconnaître. Liu, sans ses lunettes, roulait des yeux presque aussi vite que ceux des rats taupes nus. Les joues de son visage rond s'étaient creusées. Et une large cicatrice courait de son cou à sa poitrine, sous sa chemise déchirée. Braza, à côté de lui, barbu et chevelu, ressemblait à un Robinson halluciné. Le crâne de Wayne, piqueté de taches oranges et de croûtes ensanglantées, était entièrement rasé. La peau d'Haussmann était devenue aussi blanche et transparente qu'un drap de coton. Titubant à côté d'eux, Philao, Honora et Matifou n'étaient guère plus en forme. Il reconnut également d'autres prisonniers hébétés. Fantin, l'aquarelliste impertinent, les savants Pastor, Cléa, Solveig et Zelig, Mouk et Noam, ses deux vieux amis du tipi. Une armée de morts vivants, ayant vécu sans lumière depuis 6 mois, ayant sans doute subi des tortures quotidiennes. Mais aucun d'eux n'avait craqué. Zizo décrocha le trousseau de sa ceinture et entreprit d'ouvrir les grilles. Les clés tournèrent sans peine dans les serrures.
« Zizo !»
répétait Liu en essayant d'écarquiller au maximum ses yeux fendus.
« C'est bien toi ?»
Oui. Zizo n'avait pas de temps pour les discours. Il ouvrit les cellules les unes après les autres, aveuglant chaque prisonnier de son laser, essayant de repousser un sentiment de colère. Alix n'était pas là. Aucune femme n'était retenue ici prisonnière. « Où sont les filles ?» cria Zizo dès qu'il eut ouvert le dernier cachot, celui de Gulo Gulo. Le pauvre paraissait avoir perdu la moitié de son poids. Liu progressait en tâtonnant. Ses yeux commençaient à se réhabituer à la lumière.
« On ne sait pas. Nous avons toujours été séparés. Nous avons plusieurs fois entendu des gardes parler du lieu où elles seraient enfermées, le sérail, mais... »«
Il faut les retrouver !» Zizo, boitant toujours, éclairant le néant, était déjà reparti, entraînant derrière lui un convoi de fantômes. Il n'arrivait pas à se réjouir d'avoir retrouvé Liu et les autres. Seul Alix occupait ses pensées. Rien d'autre ne comptait. Même sa cuisse le faisait moins souffrir. L'espion dut néanmoins ralentir. Gulo Gulo parvenait difficilement à tenir debout. Honora, Philao et Matifou, guère plus fringants, devaient le soutenir. Ils passèrent devant un premier poste de garde, entièrement déserté. Tout un stock d'armes, bow, épées, arcs et flèches, avait été abandonné.
« Ils sont tous à la bataille !» fit Zizo.
Il expliqua en quelques mots aux prisonniers la montée de la révolution depuis leur capture dans la vallée des teinturiers, l'étendard arc-en-ciel, les feuilles de chou de Constel, les centaines de désertions au sein des corporations et l'affrontement final sur le Mont Chauve en ce moment même. Les résistants l'écoutaient, sidérés, fiers que leurs idéaux se soient ainsi propagés, déçus de ne pas y avoir participé.
Il est là ! Cria soudain une voix. Une patrouille d'une dizaine de gardes, commandée par Pépin, venait de surgir face à eux.
Attention ! Cria le colonel. Il est armé ! Il a volé l'arbalète Cobra de la consule !
Le sang de Zizo se figea. Isalis avait donc été secouru. Et tous les gardes du palais s'étaient lancés à sa poursuite. Il s'avança en claudiquant, braquant son arme. Il ne lui restait plus que 3 flèches. Il n'était pas en état de saisir un bow pour se battre à 1 contre 10. Il ne pouvait pourtant pas se permettre d'être pris avant d'avoir trouvé le sérail, avant d'avoir délivré. Liu venait de passer devant lui.
« Phil, on va les retenir !»
Le petit savant serrait un bow de bambou entre ses mains tremblantes. Wayne s'était également placé entre Zizo et les soldats, brandissant une lourde massue.
« On a quelques comptes à régler avec eux !»
Gulo Gulo avait attrapé une hache, Philao une fourche, Matifou un arc, Brazar un sabre impérial.
« Même avec ta patte folle !» souffla Liu. « Tu es plus en forme que nous. C'est toi l'espion, la petite souris. Tu dois trouver le sérail !»
La torche de Zizo fouilla les recoins sombres de la cave. Un couloir partait sur sa droite. Les prisonniers libérés pourraient en garder l'entrée le temps qu'ils s'échappent. Liu le poussa.
Ne traîne pas, on compte sur toi. Dis à Lunella que je l'aime.
Les gardes approchaient. Les prisonniers se mirent en position de combat. Wayne agrippa sa massue, les larmes aux yeux.
Dis à Cheyenne que pas une seule seconde je n'ai cessé de penser à sa petite bouille d'indienne.
Osman banda son arc.
Préviens à Leonarda que quand tout cela sera terminé, on fera tous les deux le tour du monde nouveau, juste avec une carte et ses pinceaux.
Philao pointa sa fourche.
Et Florentine, que j'inventerais une rose unique, rien que pour elle.
Les soldats chargeaient. Le bloc des prisonniers se resserra. Zizot attrapa un beau de rosier et s'enfonça dans le couloir latéral, les yeux humides, sans se retourner. Akane avait grimpé le plus haut possible sur le mont Chauve, au sommet des rochers gris de marne, de gypse et de ciment armé, protégé par les arbres accrochés aux falaises abruptes. Dissimulé au pied d'un ginkgo centenaire, dans un bosquet des lentes, il observait les 8 colonnes blanches du temple de la Sibylle, son toit pointu en forme de pomme de pin, les feuilles et les têtes de lions sculptées. Le kiosque de marbre bénéficiait d'une vue à 360 degrés sur les toits de Paris, la tour Eiffel, la nouvelle montgolfière de la BNM et le parc en forme de croissant autour d'eux, intégralement quadrillé par l'armée impériale. Il pointa sa longue vue vers le temple, espérant apercevoir entre les colonnes le visage d'un ombrageur ou les oreilles d'un caracal. Il ne distinguait que leurs ombres. Tous, hommes et fauves, restaient terrés dans leur abri. Augénor les avait sans doute chargés de protéger coûte que coûte le moulin sublime.
« Ces salauds d'Orphéo et de Shadow sont toujours planqués dans leur cabane, avec leurs gros chats ?»
Akane se retourna, sa bille rampait vers lui.
« Je t'avais dit de ne pas me suivre. Et depuis quand je t'obéis ?»
Le géant haussa les épaules, résigné. Il désigna du doigt le monument blanc.
« Oui, Orphéo, Tchado et 6 autres ombrageurs sont toujours retranchés à l'intérieur, protégés par leurs fauves. Bic et Mouka, les rumineurs éleveurs de taureaux, des pros du rodéo, ont essayé d'entrer. Ils sont sortis avec un pied et une épaule arrachée. Si ces monstres ne les ont pas dévorés en entier, c'est uniquement parce que Tchado les a arrêtés pour que les éleveurs reviennent nous faire passer le message. Toute tentative de prise d'assaut se terminera par un carnage. »
Sabi observa à son tour le petit temple antique dominant la colline.
« Et si on envoie un commando plus important, mettons 10 ou 20 compagnons, ces gros chats feront peut-être une indigestion ?»
Akane regarda la Loli Girl. Il avait beau la connaître mieux que quiconque, il ne parvenait pas toujours à savoir si elle plaisantait ou non.
« Je ne vais pas envoyer des hommes et des femmes se faire dévorer vivants. »«
Alors on fait quoi ?»«
Je ne sais pas. »
Sabi sourit à son géant. Elle aimait quand il était ainsi, fragile, impuissant, désarmé comme un enfant. Elle aimait sa force, son incroyable virilité, c'est ce qui l'avait charmé. Mais plus elle connaissait Akane, plus elle fondait devant son désarroi de petit garçon dès qu'il se trouvait face à un problème sans solution. Akane aurait voulu être un super-héros portant le monde sur ses épaules, mais le monde était trop lourd, même pour lui, même si Sabi faisait tout pour le rendre plus léger. Ils observèrent un court instant le champ de bataille 30 mètres plus bas. Akane braquait sa longue vue au hasard. En parfaite ligne droite, Agnel, Mano, les gitans et une 20aine d'autres compagnons tenaient héroïquement le pont des suicidés. Une pluie de flèches s'abattait dès que les soldats impériaux tentaient de passer. Cachés derrière les troncs des marronniers, des cèdres et des oliviers, ils restaient hors de portée de l'artillerie. Cela ne suffirait pourtant pas à protéger l'accès au mont Chauve. Autour de la tente de commandement, des soldats assemblaient des cordes et des planches pour fabriquer des passerelles. Dès qu'elles seraient opérationnelles, ils les jetteraient toutes en même temps à travers le lac et lancerait l'assaut. Le seul espoir était que Rick passe à l'attaque en premier. Le seul espoir? Vu du sommet du mont Chauve, cet espoir paraissait bien dérisoire. Ils avaient sous-estimé les effectifs de l'armée impériale. Ils avaient évalué ses forces à 3000 soldats. Mais c'est une marée humaine de 5000 hommes et femmes, peut-être davantage, qu'ils découvraient. Les troupes de Rick allaient se battre à 1 contre 5. Des arbres s'enflammaient, touchés par un feu grégeois. Les boulets continuaient de siffler au-dessus d'eux. La majorité des rebelles se cachaient toujours sous les toits de fer. Au loin, vers l'église blanche de Montmartre, les pentes du cimetière du Père-Lachaise ou la butte du Chapeau-Rouge, les rues de Paris semblaient désertes. Le destin de l'humanité se jouait là, sur ce rocher. Un avenir désespéré. Quel que soit l'endroit où Akane regardait, le constat était le même. Ils étaient seuls et encerclés. Sabi s'assit à côté de son géant et caressa sa joue.
Tout n'est pas fichu. On peut encore gagner, mon géant. Souviens-toi, toutes ces batailles légendaires que Valère nous a racontées, ces troupes de va-nu-pieds qui ont renversé les grandes armées, les Grecs en jupette des Thermopyles, les Écossais en kilt de Bannockburn, les sans-culottes de Valmy.
Akane, sans répondre, tendit sa longue vue à la Lolly Girl. Regarde.
Quoi ? Où ?
Au fond, le long du canal. Le nuage de poussière. La Lolly Girl pointa la lunette, régla la mire, ne vit d'abord que le ciel, un alignement de bâtiments, un canal verdâtre, un nuage gris, une rue vide, et...
Merde !
Des cavaliers descendaient au galop le boulevard Bolivar. Elle reconnut la haute silhouette de Jean d'Arc, montée sur Mistral, et derrière lui, toute la cavalerie de Ligérie. La troupe d'élite de l'Empire. Augénor n'avait rien laissé au hasard. Il avait rappelé toutes ses forces, y compris celles chargées de protéger les contrées les plus lointaines. Sabi resta à regarder, fascinée, la charge coordonnée des cavaliers, leur alignement parfait, 5 par 5 sur toute la largeur de la rue, leurs uniformes rouges étincelants, leurs baux d'acier portés à la verticale, qu'ils abaisseraient comme autant de dards meurtriers pour fendre les rangs des fous qui ne fuiraient pas devant eux. Comment espérer que Rick et ses compagnons arc-en-ciel, armés de fourches et de pelles, puissent lutter? La jambe de Zizo le faisait souffrir à chaque pas. Il ne parvenait plus à prendre appui sur son pied droit. Il avait dû se résoudre à passer son arbalète dans sa ceinture, sa main droite lui servant à braquer la lampe laser devant lui, et la gauche à serrer le beau de rosier contre sa cuisse, telle une béquille. Il avançait ainsi dans les couloirs sombres du sous-sol, gagnant en dextérité et en rapidité. Il n'avait croisé aucun garde. Si les soldats de Pépin ne l'avaient pas déjà rattrapé, c'était que Liu et les autres résistants avaient réussi à les retenir. Pour combien de temps encore? Zizo tentait de se remémorer le plan du palais, mais ses pensées se brouillaient. Il avait appris par cœur l'enfilement des chambres et des salons aux étages supérieurs, mais les pièces de la cave se ressemblaient autant qu'un alignement de placards, et les couloirs formaient un dédale dans lequel il avait l'impression de tourner en rond. Il décida d'arrêter d'explorer le sous-sol, de chercher un escalier et de remonter au rez-de-chaussée au risque d'y croiser des patrouilles impériales. Après tout, rien ne prouvait qu'Alix et ses compagnes d'infortune se trouvaient enfermés dans les cachots. Ce fameux sérail pouvait être à n'importe quel autre étage. Il entendit l'éclat de rire alors qu'il allait rebrousser chemin. Un rire frais, joyeux, tel une cascade d'eau claire. « Impossible, » pensa Zizo. « Impossible qu'un prisonnier puisse s'amuser dans un tel enfer. » Il s'arrêta pour percevoir le moindre nouveau bruit. Le rire se transformait petit à petit en gloussement, en hoquet, comme quand quelqu'un n'a même plus la force de supplier l'autre d'arrêter de le chatouiller. Zizo n'avait pas entendu un rire aussi pur, aussi innocent, depuis si longtemps. C'était le rire d'un enfant. Zizo, beau en l'air, rayon laser aux aguets, crut percevoir un autre rire, plus discret, plus adulte, plus féminin. Il ne put retenir un cri.
« Alix !»
Les rires et les voix venaient de la droite, après une bifurcation.
« Alix ! Alix !»
Zizo ne prit plus aucune précaution. Son beau cognait sur les pavés. La lampe laser, réglée au maximum, éclairait davantage la cave qu'un soleil au zénith. Il galopait, oubliant toute douleur.
« Alix !»
À droite, encore à droite. Il aperçut un long couloir et tout au bout, une unique cellule. la cavalerie de l'Igérie approchait du Mont Chauve. Elle avait déjà dépassé la rue des Dunes et entrait au grand galop dans le parc par l'entrée sud. Du haut du rocher, tous les rebelles arc-en-ciel avaient repéré le nuage de poussière, aperçu les pointes des baux d'acier, entendu le choc des sabots. Des cris de joie parcouraient les rangs de l'armée impériale. Les soldats s'écartaient pour laisser passer les cavaliers, les drapeaux verts les saluaient. Leur plan n'était pas bien compliqué à comprendre. Les troupes d'élite de Jeanne d'Arc chargeraient droit sur le pont des suicidés. Harnachés et cuirassés, ce ne serait pas la pluie de flèches d'Agnel et de Manot qui les arrêterait. Les mercenaires impériaux s'engageraient derrière eux pour un seul et définitif assaut. Les partisans arc-en-ciel, face à une armée 5 fois plus nombreuse, seraient submergés.
« Il faut les arrêter !»
cria Sabi en crispant sa main sur l'épaule d'Akan.
« Il ne faut pas qu'ils franchissent le pont !»
Akan et la Lolly Girl se trouvaient toujours derrière le Ginkgo centenaire, au sommet du Mont Chauve, à quelques mètres de l'imprenable temple de la Sibylle.
« Impossible !» fit Akan, résigné. « Jeanne d'Arc ne commettra aucune erreur. Il a combattu aux 4 coins de l'Empire. Il est le meilleur soldat du Nouveau Monde. »
Dans la mire de sa longue vue, le géant admira malgré lui le costume rutilant du généralissime, sa haute casquette brodée aux insignes du grand cerf, sa veste à boutons d'argent fermée jusqu'au ras du cou, ses galons et ses épaulettes dorées.
« Quelle connerie la guerre »
soupira-t-il.
« On aurait pu être dans le même camp. J'ai toujours estimé Jeanne d'Arc, même quand on a combattu l'un contre l'autre dans la cour carrée. » Ensemble devant le pont-levis du château de Vincennes. Droit, loyal, un lion.
Sabi arracha la longue vue des mains de son géant.
Non, un mouton. C'est si facile d'obéir en ne se posant aucune question. Tout comme son amoureuse, Vanille, ta petite protégée du tipi devenue grande argentière du Nouveau Monde. Pas de sang sur les mains, mais des lunes plein les poches.
Les cavaliers parvenaient au niveau de la grande cascade. L'armée impériale continuait de se disperser devant eux. La Lolly Girl pointa la longue vue en pestant.
« Ton généralissime, si j'avais un arc capable de tirer à plus de 100 mètres, je me ferais un plaisir de lui décocher une flèche en pleine tête !»
Sabi s'arrêta soudain de parler. Un vent de panique venait de souffler sur les troupes impériales. Certains soldats qui s'étaient écartés pour laisser passer les cavaliers, essayaient à nouveau de se regrouper devant le pont, entre les canons, les catapultes ou autour de la tente de commandement.
« Qu'est-ce qu'il fabrique ?»«
Je le savais, » fit Akan.
Il se leva, au mépris de toute prudence, fournissant du haut de ses 2 mètres une cible idéale pour les boulets. Sabi se hissa sur la pointe des pieds. Elle ne put retenir ses larmes, attrapa la main de son géant et la serra le plus fort possible. Sur les flancs du Mont Chauve, la rumeur enflait. Les compagnons sortaient de leurs abris de tôle, criaient et applaudissaient au son des marteaux des couvreurs frappés sur le fer et des sifflements de joie des oiseleurs. Le généralissime Jeanne d'Arc, dressé sur ses étriers et prenant Mistral pour le lancer au plus grand galop, avait jeté au loin sa casquette aux insignes du grand cerf et tenait dans sa main droite, bras tendu droit vers le soleil, un drapeau arc-en-ciel. Chevauchant derrière lui, les autres cavaliers d'élite laissaient eux aussi flotter au bout de leurs baux les linceuls des teinturiers. Sabi sautillait sur place, hystérique.
« Un lion loyal ! Oh, tu avais raison, mon géant ! Oh, loyal à notre idéal ! Il a fini par ouvrir les yeux !»
La cavalerie de l'Igérie traversait le parc au grand galop, fendant l'armée impériale aussi facilement qu'un couteau entrant dans une motte de beurre. Personne n'osait s'opposer aux cavaliers rouges. L'effet de surprise était trop soudain, leur traîtrise trop inattendue. Leur attaque fut en tout point semblable à celle que Rick, Akan et Valère avaient imaginée. Frappée vite et fort, au cœur. Des cavaliers lancèrent des cordes sur les catapultes, les balistes et les canons, avec autant d'habileté que des éleveurs de taureaux maniant leurs lasso. D'autres saisirent des torches enflammées. En moins d'1 minute, à l'issue de leur razzia éclair, la totalité des pièces d'artillerie de l'armée impériale avait sombré au fond du lac et la tente de commandement de Novak et Helios se consumait dans les flammes. La pluie de boulets et de bombes vertes avait aussitôt cessé. Sur les hauteurs du mont Chauve, l'euphorie s'était pourtant déjà dissipée.
« Ils ne sont que 30 cavaliers ?»
comptait Sabi.
« 30 cavaliers contre 5000 soldats !»
L'armée impériale se réorganisait et les encerclait. Vu de la butte, on aurait dit une gigantesque colonie de fourmis se refermant sur un malheureux insecte à 100 pattes. Le pont des suicidés était la seule issue pour les cavaliers. Ils s'y engouffrèrent, les flèches d'Agnel, de Mano et de son commando protégeant leurs arrières. La percée des cavaliers avait eu pour effet de précipiter les événements. Il n'était plus question pour l'armée impériale de bombarder les positions ennemies, de les assiéger et d'attendre qu'ils s'épuisent. Tous avaient compris que l'assaut serait lancé immédiatement. Partout, des drapeaux verts du grand cerf avaient fleuri. Des cris et des hurlements traduisaient leur impatience de se lancer dans l'affrontement.
« Aucun n'a suivi Jeanne d'Arc !»
enrageait Sabi.
« Aucun de ces trolls ne s'est rallié au drapeau arc-en-ciel !»
Akan avait rangé sa longue-vue, désormais inutile.
« À part quelques SSS, ce ne sont que des mercenaires. Ils se moquent de qui gagnera la guerre du moment qu'ils sont nourris et payés. »
30 mètres sous eux, Mano et son commando, débordés, avaient quitté leurs marronniers, leurs cèdres et leurs oliviers pour battre en retraite, abandonnant à l'Empire le pont des suicidés. Une file continue de soldats en armure le traversait, armés de bow, de sabres, d'arcs et d'arbalètes, au son du tambour impérial et au rythme des chants guerriers. Les premiers commençaient à gravir le mont Chauve, suivi par un flux aussi puissant et régulier qu'un raz-de-marée, un fleuve en crue dont le débit ne baisserait pas avant de les avoir tous engloutis.